a dream.
It's one small step for man.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir et bienvenue dans l'Amérique et vous, Eric Manirakiza avec vous à ce micro. Michel Claire-Joseph assure la réalisation de cette édition. Ce soir, nous discutons de la suppression de l'aide américaine. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a annoncé la suppression de 83% des programmes de l'USAID, une agence clé de l'aide humanitaire mondiale. Cette décision a des répercussions importantes pour l'Afrique, où de nombreux programmes de santé, de développement et de soutien humanitaire risquent de disparaître. Nous allons analyser les conséquences de cette politique, explorer les alternatives et discuter de l'impact sur les pays africains. Nous sommes en ligne avec la sœur Suzanne Bivougui, entrepreneur agricole du centre agropastoral Sainte-Ursule de Sérédou en Guinée. Elle est également coordinatrice d'un projet sur la biodiversité, la lutte contre l'immigration clandestine et l'entrepreneuriat des jeunes pour se prendre en charge. Bonsoir sœur Suzanne.
Bonsoir Thierry.
Notre deuxième invité, Ibrahima Khan, analyste et chargé de programme Open Society Initiative pour l'Afrique de l'Ouest, OSIWA. Monsieur Khan, bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Je vais commencer avec vous, monsieur Khan. Quelles seront les conséquences les plus immédiates pour les programmes de développement en Afrique?
Vous savez... L'Amérique était en relation avec beaucoup de pays africains et avait développé des initiatives comme l'AGOA, comme le Millennium Challenge, qui étaient vraiment des stratégies américaines pour aider les pays africains à se développer. Aujourd'hui, en pratiquement annulant toute l'aide publique américaine, les États-Unis mettent un terme à ces stratégies-là. Et ça, c'est vraiment à un moment où le monde est dans une situation économique assez difficile et où les pays africains essayent de bien limiter, de faire changer les règles des relations internationales pour que les règles soient plus démocratiques et autres. C'est à ce moment précis que l'Amérique vient mettre qui pratiquement coupe l'herbe sous les pieds des États africains. Et c'est là où je pense que c'est une bonne chose dans la mesure où ça montrera clairement aux États africains que leur futur n'est pas dans l'aide, que leur futur est dans la création des richesses par les pays africains pour faire face à leurs besoins. C'est en faisant cela qu'ils arriveront à vraiment changer la donne dans leur pays, mais pas en comptant sur l'aide publique. Une aide publique qu'ils ne peuvent même pas contrôler parce que cette décision américaine, elle est venue pratiquement à un moment où personne ne l'attendait. Et donc, on ne peut pas, penser son futur en ayant des ressources dont on n'est même pas sûr qu'on les aura tout le temps. Donc, il faudra vraiment repenser la manière dont on développe les relations avec les États développer et surtout ne pas penser que l'aide publique étrangère vraiment pourra nous aider à sortir de cette situation. Je pense que l'exemple américain nous montre que ça ne le sera pas.
Nous allons en parler tout de suite, Monsieur Khan. Sœur Suzanne, voudriez-vous nous décrire comment votre projet est affecté par la décision de Washington? Vous collaborez avec une organisation bénéficiant directement d'un financement de l'USAID ou qui bénéficiait directement?
Oui, je suis la coordinatrice d'un projet qu'on appelle Jeunesse pour la conservation. Ce n'est pas un projet à nous, c'est un projet plutôt de US Forest Service en collaboration avec RENACE, Ressources naturelles sans pauvreté. Voilà. Mais nous, notre centre, évoluant dans la formation des jeunes pour lutter contre l'immigration. Alors, cet organisme, cette ONG, RENASPE, est venue vers nous et on travaille en collaboration. Donc, nous nous formons en tant que coordinatrice dans notre centre, ces jeunes-là. Nous avons déjà eu une première édition en 2024 et cette année, la deuxième édition a commencé en janvier 2025. Alors, l'impact que cela a, c'est que les jeunes, en partant, ils étaient vraiment désemparés. Parce qu'ils venaient juste de commencer le premier mois, ils étaient tout feu, tout flamme pour suivre cette formation-là. Parce qu'ils ont entendu parler, ils ont vu sur les réseaux sociaux comment les autres ont bénéficié de cette formation. Et tout d'un coup, on leur dit « rentrer à la maison ». Mais avec eux, on était tristes. Donc l'impact, le grand impact, c'est que d'abord les jeunes étaient désemparés, ils étaient tristes et passés. Mais nous, nous continuons. J'apprécie bien ce que M. Khan a dit, parce que nous, en tant que centre, avec ou sans l'aide de US Forest et de USAID, nous, nous continuons. Parce que notre centre existait déjà. Voilà oui. Un peu ce que je peux dire.
Oui, sœur Suzanne, comment, disons, vos partenaires se préparent ou s'adaptent à cette réduction drastique de l'aide? Je parle des partenaires qui recevaient des financements de USAID.
Bon, tout le monde, vous voyez, les gens attendent, on attend la reprise. Mais en même temps, je pense que les gens sont obligés de se réorienter. Je ne peux pas parler à leur place. Je ne peux parler que des jeunes que j'avais sous la main ici. Sinon, je pense qu'ils ne sont pas les seuls, même dans les ministères, tout ça, là, tout le monde en parle. Donc, c'est pour dire qu'on est d'accord que c'est une manière pour nous, Africains, de nous prendre en charge. On peut compter. C'est vrai qu'on ne peut pas vivre en autarcie. On ne peut pas vivre seulement enclavé et puis tourner sur nous-mêmes. Mais il faut savoir que si la personne qui donne dit aujourd'hui je ne veux pas donner, il faut s'attendre à la chose. Mais si on est préparé à se prendre en charge, à être autonome, et puis bon, qu'on ne vive pas seulement pour attendre l'aide des autres, là, ça peut nous affecter moins.
Monsieur Khan, en tant que spécialiste du développement, comment voyez-vous cette décision affecter les initiatives de soutien aux populations les plus vulnérables?
Mais c'est une décision terrible. Je vous donne simplement l'exemple de la lutte contre le VIH-Sida. Vous savez que l'Afrique a été un continent qui a vraiment souffert de cette pandémie. Et une très grande partie de la lutte contre le VIH-Sida, c'est-à-dire que les personnes qui sont infectées puissent avoir les entrées rétroviraux et aller dans les hôpitaux pour essayer de voir comment ils peuvent ajuster leur thérapie aux nouvelles technologies. Tout cela va à l'eau d'un seul trait de signature de M. Trump. Et beaucoup de nos États avaient pratiquement abandonné le système de financement de cette lutte-là, pensant que c'est les États-Unis qui vont prendre ça en charge. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec des milliers de personnes qui vont bientôt être sans médicaments, qui vont être bientôt sans une couverture médicale qui va leur permettre de gérer leur situation. Et peut-être même, la maladie peut reprendre, puisqu'il n'y a pas de protection, la maladie peut dégénérer et on va se retrouver encore en face d'une pandémie, simplement parce que nos États avaient laissé la gestion d'un secteur aussi vital que la santé à un pays, les États-Unis, et ou bien à une puissance étrangère, en pensant que cette puissance-là faisait l'aidait, alors qu'en réalité, comme on l'a vu, ce n'était pas une aide, c'était des intérêts que les Américains défendaient. Aujourd'hui, un nouveau président est venu à penser que ce n'était pas dans l'intérêt des États-Unis de continuer à faire cela et à changer de stratégie. Et donc, on se trouve à carreau. Et ce que je dis au niveau du VIH-Sida, dans un pays comme le Sénégal, il y avait 600 milliards de francs CFA qui était destiné à des projets visant à développer le solaire au Sénégal, c'est-à-dire à faire en sorte que le pays puisse assurer sa transition vers l'énergie verte, mais en même temps aussi donner de l'électricité, c'est-à-dire quelque chose d'essentiel aujourd'hui, parce que qui permet l'accès à l'Internet, à l'eau, et à, etc. Donner de l'électricité à un grand nombre. Tout cela est à l'eau aujourd'hui. Et le gouvernement, je me souviens quand la décision a été prise, le gouvernement était dans l'embarras parce qu'il avait promis à une bonne partie de la population dans des régions reculées de l'électricité, mais maintenant il ne pourra pas remplir cette...
Allô, nous avons perdu notre invité. Nous allons essayer de le recontacter pour rétablir la liaison. Sœur Suzanne, vous êtes toujours avec nous. Est-ce que cette décision américaine met-elle en lumière la dépendance de certains pays africains vis-à-vis de l'aide internationale, selon vous? Sœur Suzanne? Nous avons un problème de connexion téléphonique avec nos deux invités. Nous essayons de rétablir la communication. Nous parlons donc de la suppression de l'aide américaine. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a annoncé donc la suppression de 83% des programmes de l'USAID, d'une agence clé de l'aide humanitaire mondiale, et raison des coûts élevés et aussi inefficacité des programmes. Nous avons déjà rétabli le contact avec nos deux invités. Ibrahima Kane, on a été coupé tout à l'heure. Quelle alternative pourrait être envisagée pour continuer ces efforts vitaux? Est-ce que cette suppression des programmes révèle-t-elle une faiblesse structurelle des systèmes de gouvernance ou des économies africaines?
Et bien entendu. Mais vous savez, on était tous avertis. On savait tous qu'un jour ou l'autre, cette aide que nous recevons des puissances étrangères pourrait baisser. Si vous vous rappelez, dans les années 80, au fort de l'ajustement structurel, tous les pays s'étaient engagés à consacrer 0,7% de leur produit intérieur brut pour l'aide au développement. Je pense qu'il n'y a que deux ou trois pays qui ont finalement respecté cet engagement. Il y avait la Hollande ou je ne sais plus deux autres pays. Et par la suite, cette aide a drastiquement baissé tous les ans en raison de leur intérêt politique, de leur intérêt économique. Rappelez-vous récemment l'Angleterre, quand elle a décidé de financer son armement, le premier chapitre budgétaire qu'il a voulu, où il a allé chercher cet argent, c'était l'aide publique au développement. Donc les États européens, les États occidentaux de manière générale, l'aide publique, ce n'est pas une obligation pour eux. Ce n'est pas un engagement ferme, c'est surtout un engagement en fonction de leurs intérêts stratégiques. Et ça, les pays africains devraient le savoir et on devrait développer des stratégies qui nous permettent de compter d'abord sur nous-mêmes, de compter sur nos propres moyens, de développer d'autres initiatives allant dans le sens d'accroître la richesse dans nos pays, et de faire en sorte que une bonne partie de ce qu'on veut faire pour transformer nos sociétés, qu'une bonne partie de ces ressources-là viennent de nos pays. Et qu'on établisse de nouvelles règles dans les relations internationales qui feront que des institutions comme la Banque mondiale, comme le Fonds monétaire international, comme la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, que l'argent de ces systèmes-là servent aussi à rendre les relations économiques internationales plus démocratiques et à faire en sorte que chacun puisse bénéficier des avantages que ce système monétaire international qui a été mis en œuvre depuis 1945 puisse aider les Africains à décoller. Ce n'est pas le cas. Toutes ces institutions-là sont des moyens utilisés par les États occidentaux pour contrôler les relations internationales, pour servir leurs intérêts immédiats. Et tant que les règles-là resteront en place, on n'aura pas de solution. Donc notre combat est double, à l'interne, produire de la richesse, mais à l'externe aussi faire en sorte que les règles des relations économiques soient plus démocratiques et que des règles qui soient plus équitables pour tous les États du monde et que les États africains puissent en bénéficier. Je pense que si on joue sur ces deux tableaux-là, quelque chose pourra sortir de cette nouvelle dynamique et peut-être qu'il pourra avantager plus tard les jeunes générations africaines qui déjà savent qu'ils ne pourront plus compter sur l'aide, qu'ils vont devoir trouver d'autres moyens pour assurer leur propre développement.
Sœur Suzanne, cette situation met en lumière la dépendance de certains pays africains vis-à-vis de l'aide internationale. Et les Africains, dans leur quête de souveraineté, comment peuvent-ils se renforcer pour réduire leur dépendance à l'aide étrangère?
Moi, dans mon entendement, je crois que les États devraient encourager les initiatives à l'interne. C'est vrai, on a besoin d'un plus petit que soi. On peut avoir besoin de l'aide des autres. Mais quand ces aides viennent là, essayer de multiplier ou bien de former des personnes qui pourront prendre le relais et ne pas tout le temps compter sur l'aide extérieure. Chez nous, on dit la main tendue doit accepter tout ce que la main qui donne lui fait. C'est ça. Donc, pour éviter ça, moi, je pense que les gens, on devrait travailler à ce que petit à petit que nous nous prenions en charge, même si on a besoin des autres, mais que nous-mêmes, nous puissions, avec nos petits moyens, commencer à nous prendre en charge. Et si l'État a les moyens, qu'il subventionne les personnes qui ont des initiatives pareilles pour que nos intelligences n'aillent pas ailleurs, parce que c'est aussi la fuite de nos intelligences qui vont ailleurs, qui font des valeurs ajoutées à des pays qui sont déjà riches. Pourquoi ne pas créer nos propres ressources ici-là? Garder les intelligences, ça veut dire que lutter d'abord contre l'immigration, encourager les jeunes à s'investir, donc à les subventionner pour qu'ils puissent s'investir, et petit à petit, je pense qu'on peut se prendre en charge au lieu de toujours tendre la main. Moi, ici, pour ceux qui luttent, pour qu'on puisse être autonome, on a besoin des autres, certes, mais nous-mêmes, là, nous prendre en charge. Si les autres ont pu se prendre en charge, je pense que nous, pays africains, nous le pouvons aussi. On n'est pas en dessous d'eux. On peut se prendre en charge. Comment ils ont fait? Et on a de nos grands intellectuels qui sont là-bas, qui aident à créer des richesses. Pourquoi ne le ferait pas ici? Donc, c'est un peu ça que moi, je pense.
Oui, Sœur Suzanne, votre pays, c'est le deuxième sous-sol africain qui est riche, n'est-ce pas? Vous avez souligné ce problème d'immigration clandestine qui est un problème majeur. Quelle place devraient avoir les politiques de développement durable et de protection de la biodiversité dans la réduction des flux migratoires en Afrique?
La Guinée est un pays très riche dans son sous-sol, mais aussi dans sa végétation. Alors, je pense que notre État, ils sont en train de faire vraiment, tout le monde, la mine, c'est en train de prendre vraiment le sort. Mais moi, je dirais que l'État n'oublie pas aussi, et je crois qu'il est en train de le faire aussi, d'encourager l'investissement dans l'agriculture. Parce que quand les gens sont rassasiés, quand les gens sont capables de produire, alors ils peuvent penser maintenant à autre chose. Je prends l'exemple, il y a un projet qu'ils sont en train de faire dans Sérébou même, qui disent qu'ils vont cultiver 6000 hectares de riz et puis vont le transformer ici. Je trouve que ça, c'est déjà un bon départ. Et le gouvernement est d'accord avec eux. Je crois que le gouvernement, c'est des gens qui ont souvent, c'est un projet, mais le gouvernement est d'accord pour qu'on fasse 6000
hectares de riz, le transformer sur place ici avec les sous-produits. Donc, moi je dirais, si l'État aide encore une fois les jeunes à s'investir dans ces projets-là, et que ces projets-là ne soient pas quand le financement est terminé et que ça tombe, mais qu'il y ait une pérennité, mais tout dans le respect aussi de l'environnement. Parce qu'on peut produire et puis on détruit. C'est ça que les Européens ont fait. Ils ont détruit tellement qu'ils ont tellement produit qu'ils ont détruit. Ils ont détruit. Et on a les conséquences aujourd'hui. Donc, nous ne suivions pas cet exemple des Européens-là. Qu'on produise, mais en pensant durabilité pour les générations à venir. Pour moi, investir dans l'agriculture et dans les mines, c'est très important, mais dans le respect de la nature. Et puis, ça va aider les jeunes à aller ailleurs au prix de leur vie. Il y en a qui meurent en mer. Mais si on les encourage et si on les subventionne, je pense qu'on est capable de remonter la pente.
Monsieur Khan, la suppression des programmes de l'USAID peut-elle renforcer l'influence des États-Unis ou la réduire à l'international ?
Évidemment que ça la réduit, parce que l'aide publique, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi un moyen de politique étrangère, un outil de politique étrangère. La Chine le fait, l'Inde le fait, la France le fait, l'Union européenne fait ça, les États-Unis aussi l'ont fait. Si vous prenez par exemple la GOA, c'était vraiment un projet extraordinaire parce qu'il permettait aux pays africains de vendre directement leur production aux États-Unis sans payer de frais de douane et autres. Et c'était devenu tellement populaire que beaucoup de pays comme l'île Maurice et autres s'étaient bien sortis. Et ça avait favorisé une certaine image, développé une certaine image des États-Unis dans ces pays-là. Mais maintenant, si cette aide-là disparaît, et les problèmes que cette aide-là crée, les gens garderont toujours ça à l'esprit en disant c'est la faute des États-Unis, c'est la faute de Trump. Et donc ça va vraiment beaucoup peser sur l'opinion que les Africains se font des États-Unis. Mais maintenant la question aussi a un autre aspect, c'est que est-ce que les États-Unis, qui n'ont jamais vraiment pris l'Afrique au sérieux, est-ce que cela va leur poser de problème ? Est-ce que cela va avoir un impact ? Je pense que ça pourra avoir un impact si nous, les Africains, nous décidons aussi que les ressources dont nous disposons, nous allons les vendre à ceux qui aussi commercent avec nous de manière équitable. Et en ce moment-là, on fera payer aux Américains, tu vois, les travers de ce genre de politique. Les États-Unis veulent actuellement développer une stratégie économique avec la RDC pour exploiter un certain nombre de minerais de la RDC. Je pense qu'on devrait profiter de ce genre d'initiative pour aussi faire peser la balance dans l'intérêt de nos pays. Faire en sorte que la RDC ne puisse pas commercer avec les États-Unis à n'importe quel prix, mais que ce soit dans l'intérêt des populations de la RDC et que même si exploitation il y a, la transformation de ces ressources-là puisse se faire au niveau local et que ça puisse créer des emplois et donc créer de la richesse dans le pays. C'est ce changement de paradigme-là qu'il faut aussi développer dans nos pays, plutôt que d'aller vendre nos minerais, d'aller vendre nos pétroles et autres assez facilement, forcer ceux qui veulent exploiter nos ressources à produire de la richesse dans le pays, à transformer ces minerais-là dans le pays de manière à ce que ça puisse produire de la richesse, ça puisse profiter à nos populations.
Merci beaucoup, M. Khan. Quels sont les risques d'aggravation de la pauvreté mondiale à cause de cette décision ? Comment les pays les plus touchés réagissent-ils à cette situation ? Les 18% des programmes maintenus par Washington suffiront-ils à compenser le vide ? Voilà tant de questions qu'on se pose. Merci à Ibrahim Khan pour sa grande contribution. Merci également à la sœur Suzanne Bivogui pour sa contribution.